Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série Pop en stock transatlantique.
Bonjour, chers popophiles, popologues, popophages de tout poil. Nous voici à nouveau dans une émission donc de Pop en stock, la nouvelle mouture de ce podcast qui est désormais transatlantique et zoomesque. Et nous avons aujourd'hui un beau panel autour de la question de la série et le roman Lovecraft Country, qui à la fois ont marqué un certain engouement populaire, mais aussi tamisé par une série de réserves de la part de divers fans. Donc pour cela, nous avons réuni donc aujourd'hui Hélène Després, collaboratrice avec et pilier du podcast. Bonjour Hélène.
Bonjour Antonio.
Sophie.
Oui, bonjour.
Sophie Hort, excusez-moi.
Oui. Oui, c'est ça. Moi, en fait, j'ai été invitée parce que j'ai fait ma maîtrise sur H.P. Lovecraft, donc définitivement une fan lovecraftienne aguerrie. Puis sinon, j'enseigne la littérature au collégial, donc j'ai un intérêt pour la littérature d'horreur. J'aime enseigner Lovecraft, je le mets régulièrement au programme quand je peux, puis j'ai bien hâte de discuter avec vous aujourd'hui de la série, là.
Il faudrait que tu nous racontes un jour l'expérience de Lovecraft avec les nouveaux, les générations Z et autres. On perd un peu le track des différentes générations. Denis Mélier.
Et bonjour, je suis Denis Mélier, je suis professeur de littérature comparée à l'Université de Poitiers et dans mes travaux sur le fantastique, j'avais consacré un long moment de ma thèse à Lovecraft, au problème de l'écriture chez Lovecraft, et donc je l'ai recroisé très régulièrement depuis, et je suis très content d'être parmi vous pour discuter de ce Lovecraft Country.
Et Jérémy ?
Oui, moi en fait je suis donc originaire de Poitiers où je fais en France et où je fais une émission de radio amateur qui est dédiée au cinéma de genre. Et je participe également à une deuxième émission de cinéma sur la même radio. Je fais des présentations de films en fait dans un cinéma à réessai de ma ville. Et moi j'ai découvert Lovecraft au collège par le biais en fait des il y avait un éditeur qui s'appelait J'ai lu qui faisait des compilations des Weird Tales. Il y avait des nouvelles de Lovecraft, de Clark Ashton Smith, de Robert Howard, etc. Mais surtout, j'ai découvert aussi le jeu de rôle au collège et en fait, l'appel de Cthulhu en France. C'est comme Dungeons & Dragons aux États-Unis, c'est le jeu de rôle le plus connu. Et donc, avant d'avoir même beaucoup lu de nouvelles de Lovecraft, moi, c'est surtout par le mythe que j'ai découvert, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mythe, c'est l'univers de Lovecraft plus les divinités inventées par Clark Ashton Smith, mais on retrouve aussi le roi jaune de Chambers, en fait, dans un mythe plus global. Et en France, effectivement, c'est quelque chose qui anime beaucoup les internets. Là, il n'y a pas si longtemps, on a même fait un financement participatif pour la ville de Strasbourg, qui s'appelle la ville en jaune. On revoit toute la ville de Strasbourg à l'aune du mythe de Lovecraft, etc. Donc, c'est encore quelque chose d'assez vivant dans la pop culture en France encore actuellement.
Merci beaucoup. Oui, Jérémy Bouillet. Donc, voilà, sans plus attendre, on va faire un petit tour de table avec différents aspects donc, qui nous ont pu intéresser à la fois dans le roman et dans la série de Lovecraft Country et par la suite donc passer à une discussion un peu plus informelle. Pour ma part, je signalerai d'emblée qu'il y a un certain paradoxe à se placer sous le signe de Lovecraft, dans le sens que, comme tu viens de l'évoquer, Jérémy, il y a une longue tradition très connue de reprise lovecraftienne dans l'univers donc le Cthulhu mythos, le mythe de Cthulhu, avec un peu bon, toutes les discussions polémiques qu'il y a eu autour de cette attribution qui n'a jamais été vraiment endossée par Lovecraft lui-même, qui est plutôt un peu une fabrication rétrospective, notamment de Auguste Derleth. Mais il faut dire que et c'est ce qui a pu d'emblée un peu froisser des fans ou décevoir, il est vrai que Lovecraft Country ne se situe pas totalement dans cette lignée, ou ne se situe pas clairement dans cette lignée. Il se situe plutôt dans une autre lignée qui est en pleine effervescence et à laquelle il a beaucoup contribué, qui est plutôt la déconstruction ou le déplacement de ce legs. Donc, on n'est plus tout à fait dans la continuation telle qu'on l'a beaucoup fait dans les années 70, 80, voire 90, mais ça appartient plus au moment marqué par exemple par le Providence de Alan Moore, mais aussi par d'autres romans récents comme The Ballad of Black Tom de Victor Lavalle, Wintertide de Ruth Anna M. Reese, I Am Providence de Nick Mamatas ou Utopia de David Nickel. Donc, on est plus dans le fait qu'on commence à déplacer, déconstruire, contester, reprendre, recycler par une série de mutations et on n'est plus tout à fait dans la volonté de perpétuer le panthéon, etc. Donc, je dirais que c'est un premier point à mettre... une première balise pour comprendre un peu ce qui se passe dans Lovecraft Country, c'est qu'on est plutôt dans un déplacement. Et d'ailleurs, ce paradoxe se continue d'un point de vue esthétique parce que, esthétiquement, autant le roman que la série vont au fond se placer moins dans cette lignée lovecraftienne, cthulhuesque, etc., que dans l'horreur moderne, c'est-à-dire en fait la réaction que, dès les années 40, certains écrivains, notamment ce qu'on a appelé The Group, le groupe de Californie, avec Bradbury, Beaumont, Theodore Sturgeon, etc., un peu plus tard, Twilight Zone, donc Rod Serling, qui était aussi proche de tous ces auteurs, Richard Mason, évidemment. Et en fait, c'est une réaction anti-Lovecraftienne, c'est-à-dire que dès les années 40, avec d'ailleurs une sorte de bipolarité entre le pulp unknown de Joseph Campbell, qui voulait rien savoir de Lovecraft, c'était vraiment inscrit dans sa politique éditoriale, unknown, c'était l'anti-weird tales, c'était le fait de dire non, on veut rien de tous ces trucs-là, Campbell voulait au fond une horreur qui n'allait pas dans l'horreur cosmique et qui était beaucoup plus une horreur sociale, etc. Et au fond, c'est de là un peu le paradoxe, je pense, initial de placer l'œuvre sous le titre et l'invocation de Lovecraft, quand en réalité, on est plutôt dans la tradition quasi anti-Lovecraftienne de l'horreur sociale. Bon, évidemment, ce n'est pas aussi simple et on aura l'occasion d'en débattre aujourd'hui, mais je pense que c'est un premier point assez important parce que ce qu'on remarque le plus en lisant le roman et en voyant la série, c'est le legs d'horreur et moins que l'horreur cosmique qu'on pourrait attendre avec le titre. Évidemment, par ailleurs, ce qui a beaucoup été remarqué, salué, signalé par la critique, c'est le décentrement par rapport au racialisme, disons, voire le racisme inhérent à la vision du monde lovecraftienne. Cette idée que l'univers lovecraftien est essentiellement marqué par ce que les historiens du racisme appellent le racisme scientifique, c'est-à-dire le racisme qui, au XIXe siècle et jusqu'au national-socialisme, inscrit un paradigme qui se veut scientifique et qui, au fond, utilise évidemment la science pour tout simplement légitimer ce projet raciste. Et c'est devenu un peu un topos de la critique, notamment à travers la thèse célèbre de Houellebecq, pour lequel donc ça aurait été l'expérience de la mixité sociale à New York qui aurait perturbé Lovecraft. Et à partir de là, selon Houellebecq, l'idée de toute l'expansion de l'horreur viendrait de là. Donc, je cite, cette vision hallucinée est directement à l'origine des descriptions d'entités cauchemardesques qui peuplent le cycle de Cthulhu. C'est la haine raciale qui provoque chez Lovecraft cet état de transe poétique où il se dépasse lui-même dans le battement rythmique et fou des phrases maudites. C'est elle qui illumine ses derniers grands textes d'un éclat hideux et cataclysmique. Cette idée de Houellebecq a eu du succès auprès notamment d'auteurs, les auteurs du New Weird, donc comme China Mieville, qui dit « I follow Houellebecq in thinking that Lovecraft's œuvre, his work itself, is inspired by and deeply structured with race hatred ». Donc j'acquiesce à la théorie de Houellebecq qui affirme que l'œuvre et le travail de Lovecraft sont inspirés et structurés profondément par la haine raciale. Bon, il y a eu aussi une polémique au sein des études lovecraftiennes autour de ça. T.S. Joshi, qui est quand même le grand biographe et le grand spécialiste de Lovecraft, a écrit un article « Why Michel Houellebecq is wrong about Lovecraft's racism ». Mais toujours est-il que c'est un peu le socle à partir duquel le déplacement va se faire dans Lovecraft Country, avec le jeu de mots du titre. Donc, le pays de Lovecraft, c'est à la fois, bien entendu, les États-Unis, dans un premier sens, si on veut, et c'est le territoire de l'horreur raciale lovecraftienne. Alors, du coup, l'opération aussi, pour comprendre à la fois le roman et la série, c'est que cette déconstruction, elle se fait en reprenant un héritage plus souterrain, voire underground, qui est celui de l'horreur afro-américaine. Et si on veut très rapidement donc situer un peu cette tradition dans laquelle va s'inscrire Lovecraft Country, c'est tout d'abord l'image de l'Afro-Américain comme l'autre. Ça commence, Jacques Finet, dans son histoire de la littérature fantastique américaine, se demande même si le premier auteur de fantastique proprement américain au sens états-unien ne serait pas Joel Chandler Harris, qui était un auteur blanc qui avait récupéré et s'était approprié les traditions orales afro-américaines de la Réconstruction et qui inclut dans les contes de l'oncle Rému une série de textes fantastiques, donc proprement appartenant à ce folklore. Et puis très rapidement, on va avoir quelques figures de l'horreur raciale où l'Afro-Américain est représenté comme l'autre, mais de façon de plus en plus paradoxale. C'est le cas notamment dans le gothique sudiste ou le gothique du sud, le Southern Gothic, avec d'ailleurs un texte qui a été longtemps ignoré, qui est paru dans Weird Tales et qui, au fond, est très singulier. C'est aussi un des textes écrits par une femme dans Weird Tales. Il y en a eu plusieurs. D'ailleurs, Valancourt Books vient de sortir une anthologie, Women of Weird Tales. Et c'est Elizabeth Coulter, donc, avec The Last Horror, qui est une vision du passing, donc cette tradition des Afro-Américains qui, pour fuir l'esclavage ou pour fuir la ségrégation, se faisaient passer pour des Blancs, ce qui va être un thème qui va reprendre, qui va être repris dans Lovecraft Country et qui est représenté, ce passing est littéralisé comme une transformation d'un personnage afro-américain en un personnage blanc et dans un contexte horrifique, ce que va reprendre Martin Roof et la série. Ray Bradbury va notamment inscrire aussi la question raciale dans l'horreur, ainsi que Charles Beaumont dans un célèbre roman qui va faire un film de Roger Corman. D'ailleurs, le film de Roger Corman pour lequel il s'est le plus investi est au fond aussi celui qui, avec son insuccès à cause de l'intensité de la question raciale dans les États-Unis des années 50-60, bah finalement va le pousser pour délaisser ce cinéma social vers horrifique mais social, vers le cinéma qu'on connaît de Roger Corman, c'est-à-dire l'exploitation, etc. Et d'ailleurs, la dernière anecdote que je citerai, c'est un peu la même ironie qui a poussé à la création de Twilight Zone. En fait, le lynchage d'Emmett Till, qui est un des éléments qui va apparaître dans la série de Lovecraft Country et qui est quand même un des facteurs marquants dans l'histoire de l'horreur raciale américaine, était le projet initial donc, de Rod Serling, qui voulait faire d'abord une pièce de théâtre qui a été refusée et qui ensuite a voulu en faire un épisode de télévision. C'était un des pionniers, donc de le premier âge d'or de la télévision. C'était l'époque où la télévision se passait essentiellement à New York et elle était très reliée à l'univers du théâtre, notamment du théâtre politique et du théâtre contestataire de Greenwich Village. Et en fait, il a eu tellement de problèmes, Serling, avec la télé, qui était en train de justement basculer d'un premier modèle très dramaturgique, où il y avait des gens comme Gore Vidal, etc., qui faisaient des drames pour la télévision. La télévision commence à basculer, on commence à partir en Californie comme le Hollywood 40 ans plus tôt, et on commence aussi à tomber sous l'emprise des commanditaires et des sponsors. Or, les sponsors ne veulent rien savoir de cette histoire du lynchage de Emmett Till, et ils vont introduire quantité d'éléments de censure dans le script de Serling, et il va devoir de plus en plus enlever des références. À un moment donné, on enlève même la référence à Coca-Cola, parce que Coca-Cola se faisait à l'époque à Atlanta et on voulait absolument pas qu'il y ait un reste de connotation sudiste par rapport à l'histoire, qui était donc de plus en plus transformée en quelque chose d'abstrait. C'était plus du tout un lynchage d'un Afro-Américain, ça devenait un personnage dont on ne savait pas trop l'ethnicité, etc., etc. Donc, c'est vraiment les problèmes autour de l'impossibilité de dire ce lynchage que Serling va décider finalement de prendre une esthétique radicalement autre, qui n'est plus du tout celle du problème drama, du drame à problème, du drame politique et social, mais qui va être au contraire la métaphore, l'allusion, le deuxième degré et le passage par le fantastique. Et c'est ce qui va le mener à finalement à Twilight Zone, où la question du racisme va être essentielle, comme on sait, et de même tous les problèmes de la société américaine de son temps. Donc, il y a vraiment une histoire comme ça intéressante des rapports entre l'horreur raciale américaine, l'histoire de la culture pop américaine et tout ce qui, toute la tension inhérente à cette question. C'est ce que Toni Morrison, qui va d'ailleurs être l'auteur la plus associée avec la réinvention du gothique par le biais de la question raciale. Et c'est ce que Toni Morrison va étudier dans un essai cardinal qui est « Playing in the Dark, Whiteness and the Literary Imagination » de 1992, où elle se dit que justement, la question afro-américaine, elle est profondément inscrite dans l'imaginaire littéraire américain, même quand elle ne figure pas du tout de manière explicite, et même selon Morrison, surtout quand elle ne figure pas de manière explicite. Et à partir de Toni Morrison, il y a une grande vague d'auteurs afro-américains d'horreur qui se poursuit aujourd'hui, donc Octavia Butler, Hélène Hoyeyemi, etc. Et bien sûr aussi toute cette nouvelle vague d'horreur audiovisuelle afro-américaine avec le phénomène Get Out, etc., où s'inscrit cette fois-ci la série Lovecraft Country. Voilà, donc c'était un peu pour créer un peu, mettre un peu la table sur les coordonnées un peu de Lovecraft Country, et on va passer avec Denis à une considération plus centrée sur le roman lui-même, donc de Martin Roof.
D'abord dire peut-être que, et c'est quelque chose qui doit être rappelé, c'est que Matt Ruff est un auteur blanc. Ce qui est intéressant dans ce contexte, qui précisément associe, comme tu le faisais à la fin, la question de Lovecraft Country à une réaction ou à un moment qui est celui d'une conception afro-américaine de l'horreur, et bien entendu la présence du producteur de Get Out derrière les manettes pouvait laisser entendre, disons, une autre orientation. Bon, Matt Ruff est né en 65, hein, c'est donc un auteur qui n'est pas très prolixe pour son âge. C'est un New-Yorkais. Il se lance en littérature avec un roman magistral et salué notamment par Pynchon, Fool on the Hill, toujours pas traduit en français. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un auteur touche-à-tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux romans de Matt Ruff qui sont dans la même zone à l'heure actuelle. Il y a un monument, à mon sens, qui est La Proie des âmes, hein, qui est un récit sur la skise, et où il y a des tours de force narratifs très impressionnants entre des identités narratives variées. Il y a un gros bloc qui s'appelle Un requin sous la lune, qui relèverait plutôt de la dystopie et plutôt de la SF. Pour preuve, il est publié chez Gallimard en folio SF. Et enfin, un Bad Monkeys. Je parle uniquement des textes traduits en français. Il y a deux autres romans qui ne sont pas traduits. Bad Monkeys, qui est plutôt du registre du thriller. Hein. Thriller, il a été publié en 10-18 Grand Détective en français. Donc, quand on regarde comme ça les publications de Matt Ruff, on a l'impression d'un touche-à-tout qui va en clair du roman postmoderne et de ses déconstructions narratives extrêmement élaborées jusqu'à la reprise pop d'un matériau culturel qui emprunte aussi bien à la bande dessinée, à l'illustration, à la culture pulp, et donc à mes yeux, Lovecraft Country est probablement le plus caractéristique de ces ouvrages-là. Alors moi, ce qui m'a tout de suite intéressé en le lisant, d'abord j'avais lu La Proie des âmes auparavant, donc j'étais ravi j'avais énormément aimé, donc j'étais ravi de revenir vers lui. Ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est que très rapidement, à peu près à la moitié du livre, j'ai commencé à jubiler en me disant « formidable, parce que finalement, de Lovecraft, il n'y a pas ou il y a peu ». Et j'ai trouvé très amusant et très brillant la façon dont, finalement, Matt Ruff avait convoqué Lovecraft pour essaimer une série d'indices lovecraftiens parmi les plus visibles. On y trouve effectivement des allusions, des références, des choses qui peuvent, j'allais dire, amuser ou agacer, on en parlera certainement plus longuement tout à l'heure, l'amateur de Lovecraft, mais un petit peu à la manière dont Nabokov s'amuse à mettre des os pour psychanalystes, hein, c'est-à-dire, vous savez, Nabokov détestait les psychanalystes, et donc il introduisait dans ses romans des indices à psychanalystes pour qu'ils foncent dessus et qu'ils soient bien entendu tout à fait déçus de ce qu'ils y trouvaient. Et je crois qu'il y a quelque chose chez Lovecraft qui relève un petit peu de ça. Ce n'est pas un roman pour les fans de Lovecraft, c'est très clair. C'est un roman qui parle d'autre chose, qui dit autre chose et qui pose la question de Lovecraft un peu autrement. J'y viendrai tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est un roman qui est, je crois, est très taillé pour l'adaptation série, à telle enseigne qu'on peut se demander s'il n'est même pas écrit dans la perspective, effectivement, de la construction sérielle, dans la mesure où c'est un roman composé de 8 sections assez distinctes et qui sont d'ailleurs des sections structurantes pour le déroulement de la série. J'ai été très frappé en la voyant à quel point, effectivement, l'organisation linéaire qu'avait adopté Matt Ruff était à peu près suivie par la série. Et il a ceci d'intéressant ce roman, c'est que ce ne sont pas la juxtaposition de 8 nouvelles, hein, on n'est pas dans une logique de composition de recueil où quelques petits détails permettraient d'ajuster finalement une sorte de récit cadre. En fait, la composition des 8 récits fait qu'on prend l'histoire continue à travers différents points de vue, à différents moments, et que en fait, les 8 histoires vont se compléter. On est plus dans la logique de ce qui serait une sorte de roman choral hein, qui se recompose en un point donné. Et ça, je trouve, avec une habileté très forte dans la composition. Mais, et c'est là où je trouve que Ruff fait assez fort, sans avoir besoin ou sans avoir recours à des stratégies de perturbation qui sont extrêmement complexes, comme par exemple dans le cas de La proie des âmes. Lovecraft Country n'est pas un livre difficile, retors, où le lecteur se perd. Il y a au contraire effectivement une sorte de double niveau, de double registre, une composition plus complexe que dans ce que l'on peut trouver chez les grands faiseurs d'histoires effrayantes, King, Barker et les autres, et en même temps une sorte de fidélité à ce que peut être la lecture pulp, la lecture d'une certaine tradition de la lisibilité de grand public que je trouve assez réussie. Donc une sorte de manière de jouer sur les deux tableaux qui est très réussie. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu, c'est ça, cette dimension de roman polyfocal, de relatif effacement de la trace lovecraftienne, je vais y venir dans un instant, et puis disons, de l'utilisation quasi métaphorique de la notion du pays de Lovecraft. C'est-à-dire qu'on peut l'entendre de deux façons. On peut l'entendre effectivement comme une sorte de vision géographique de l'horreur américaine et qu'il attache dans les actions du roman à l'est des États-Unis, c'est-à-dire au lieu de peuplement initial et avec sa déclinaison imaginaire qui est le territoire de la Nouvelle-Angleterre, Salem, etc. Et en ce sens-là, c'est véritablement un espace américain très particulier puisqu'il est rappelé dans la série notamment, mais dans le roman aussi, que Atticus, après avoir séjourné en Floride, après être venu du Sud, il y a un moment dans le roman qui se passe au nord de l'Arizona, mais en règle générale, le Lovecraft Country, ça peut être pris comme ce lieu originaire du fantastique américain, que ce soit celui de Poe, de Lovecraft ou de Brogdon Brown, c'est-à-dire vraiment attaché à l'Est, à la tradition salémienne et au rapport par extension aux héritages des grandes figures du fantastique venues d'Europe, etc. Et puis bien sûr, il y a le pays de Lovecraft, c'est-à-dire l'Amérique, où on est amené alors à se dire, puisque le nom de Lovecraft est au titre et que par ailleurs Lovecraft est si peu ou si étonnamment présent à l'intérieur du roman, c'est que le titre dit autre chose. C'est que quand un indice est trop visible, c'est que la plupart du temps il désigne autre chose. Et qu'à ce moment-là, il y a dans le nom de Lovecraft quelque chose qui a à voir effectivement avec la généralité de l'horreur. Qu'est-ce que cette horreur? Et on va très vite, et c'est d'autant plus rapide dans la série, identifier l'horreur et le mal à la domination blanche. Et donc, il y a une métaphorisation d'une Lovecraft qui est d'une grande efficacité dans le roman comme dans la série, qui consiste à dire bon ben, finalement le pays de Lovecraft c'est le pays du racisme, c'est le pays de la violence, c'est le pays de la domination. Et ce que je trouve intéressant après coup, c'est l'autre travail qu'on peut mener littéralement dans une perspective d'adaptation studies, c'est qu'il y a de très très grandes différences entre la série et le roman. Il y a énormément de thèmes qui sont absents du roman et qui ont été introduits par les scénaristes et qui donnent un prix très différent à la question des rapports de domination. C'est que le thème, sans être absent, hein, le thème sexuel est assez discret dans le roman, alors qu'il est vraiment extrêmement prégnant dans la série. Le thème disons de tout ce qui touche la transformation, la transition sexuelle, hein, est extrêmement important avec le thème des héritiers Braithwaite qui n'a pas ce personnage féminin dans le roman. Donc on a ajouté, si tu veux, une sorte de double registre, de série de registres d'intersectionnalité, si tu veux, des questions où les questions de genre, de race, de transformation, voire de domination au sens économique et social du terme, hein, entre des classes sociales différentes, sont présents, ce qui fait que le roman fait résonner des harmoniques politiques et sociales plus larges, la série, pardon, plus largement que dans le roman. Donc, je crois que ce que je trouve très, très, très intéressant avec ce roman de Matreuf, c'est de le revoir après coup un petit peu dans la perspective inverse. Je me demande ce que serait le regard de quelqu'un qui, découvrant la série, se dit « tiens, ben, je vais lire le roman », voyant effectivement un mécanisme, puisque c'est très souvent aussi maintenant dans cet ordre-là que les rapports se lient entre adaptation, entre texte souche et adaptation. Il ne faut pas simplement envisager la préséance de l'œuvre littéraire, hein, mais faire des circulations qui sont inversées, c'est-à-dire la façon dont on va à l'œuvre source à partir de la connaissance que l'on a du médium de transformation. Et qu'est-ce que va découvrir celui qui visionne la série en premier et qui découvre le roman en second? Ben, il va effectivement découvrir une présence peut-être encore plus effacée et problématique du nom de Lovecraft. Il va peut-être effectivement trouver, alors oui, le matériau Houellebecquien dont tu pouvais parler, c'est-à-dire l'hypothèse d'un racisme obsessionnel, mais qui n'est qu'une des hypothèses de lecture, hein, le débat. L'article de Yoshi dont tu parlais le rappelle certainement, et c'est une tradition chez les Lovecraftiens que d'essayer de gommer au maximum cet aspect-là de son œuvre, hein, soit par embarras, soit par adhésion. Et ce qui va alors poser plein de questions intéressantes, c'est-à-dire y a-t-il ou n'y a-t-il pas acculturation dans la façon dont Matreuf se saisit de ce matériau? Est-ce que le roman lui-même n'est pas en soi un travail j'allais dire, qui interroge tout un tas de tendances qui sont actuellement au cœur des manières dont un écrivain blanc peut parler d'une population noire, ou vice-versa. Est-ce que ce que fait Matreuf est analogue, peut être rapproché de ce que Catherine Bigelow a pu faire avec Detroit, par exemple? Donc on a cette série de questions. Puis on a ensuite des questions sur la façon dont la question raciale s'identifie à la question de la violence cosmique, c'est-à-dire qu'elle s'est déplacée, elle s'est recentrée sur l'histoire, elle s'est recentrée sur un territoire extrêmement précis, avec des allusions, avec des dates, avec un certain ancrage historique, et il y a une lecture d'historien qui est appelée sur les droits civiques, sur les massacres, sur les lynchages, et en ce sens-là, il y a une sorte de lecture très, très référentielle du roman. Et puis, enfin, je crois qu'il y a quelque chose d'assez réjouissant dans le roman de Matreuf, et que j'ai d'ailleurs trouvé assez réussi dans la série, hein. C'est quelque chose que je crois... qui peut être très très agaçant pour les orthodoxes des églises lovecraftiennes, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le grand foutoir que représente cette série et que l'on peut trouver effectivement horripilant ou très amusant, c'est-à-dire de l'icône du baseball au blues, en passant par la science-fiction, en passant par la couverture de Pulps, en passant par les lieux communs des Shoggoths, dont après tout cette représentation-là n'est pas plus ridicule que celle qu'on a pu voir ailleurs. On a effectivement une espèce de grand pêle-mêle d'images, de fragments de récits qui collent, qui s'agrègent et qui donnent une vision de ce que peut être la prégnance de la culture pop à l'intérieur de la constitution d'une trajectoire. Je conclurai en disant que le roman de Ruff, un petit peu à l'image de certains romans de Jérôme Charine ou d'autres, est vraiment un collage, ou de Stephen Wright, est un collage d'impressions culturelles qui a su s'organiser. Je ne voudrais pas donner l'idée que le livre est chaotique en ce sens, c'est-à-dire un collage d'impressions culturelles attachées à la culture pop américaine et qui a su s'organiser à travers une chaîne narrative narrative qui tresse 8 histoires en allant progressivement vers un dénouement, en étant globalement une lecture politique hein, des rapports de force qui existent entre domination blanche et population noire. Tu as fait une liste intéressante des réécritures contemporaines qui s'attaquent au mythe. J'en rajoute une, d'autant plus scandaleuse qu'elle s'en prend à Lovecraft lui-même, c'est The Night Ocean de Paul Lafargue, qui nous avait montré un Lovecraft homosexuel hein, et qui fantasmait absolument son univers à partir d'un contexte de frustration. Donc, on pourrait dire, puisque maintenant la phrase est passée dans le langage courant depuis Badiou, de quoi Lovecraft Country est-il le nom ? De quoi Lovecraft est-il le nom ? Bah, effectivement, il est devenu le nom, en tout cas chez Ruff, d'un certain nombre de refoulements, d'un certain nombre de frustrations, de colères blanches. Je crois qu'une des choses peut-être les plus intéressantes et les plus surprenantes, c'est la façon dont le personnage d'Atticus, mais pas seulement lui, hein, le personnage de Dee également comme dessinatrice, la façon dont ces personnages noirs se saisissent littéralement d'une culture pop que l'on a toujours représentée de façon réflexive comme relevant de la culture blanche et montre effectivement leur intégration complète de ces univers de la science-fiction, de ces univers du fantastique, de la bande dessinée, comme relevant effectivement pleinement de leur culture et en faisant dialoguer entre eux des stéréotypes culturels qui peuvent être horripilants, hein, dans la série l'inévitable scène de blues, parce que évidemment la communauté noire ne vit que par la musique, enfin tout ce genre de stéréotypes culturels qui sont également véhiculés par la série, et en même temps qui sont mis en tension dans le roman de Ruff de façon intéressante. Voilà.
Oui, absolument. Et donc, je pense qu'on va retrouver ce va-et-vient dans d'autres interventions. Hélène, tu voulais nous parler donc plus concrètement. Donc, on passe un peu dans le domaine de la série et du territoire.
Oui, absolument. Puis ça répond, je pense, à certains éléments que Denis évoquait. Je peux peut-être déjà commencer par me positionner justement par rapport à Lovecraft. C'est-à-dire que moi, je suis une lectrice de, j'ai pas lu tout l'œuvre de Lovecraft, je l'ai enseigné un peu. Et donc, je suis pas une indéfectible de Lovecraft. Autrement dit, j'aime bien, mais je suis pas prête à le défendre jusqu'à la mort. Puis d'une certaine façon, pour moi, son racisme est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas le genre de choses que moi, j'aurais tendance à gommer, justement, peut-être parce que je suis pas une indéfectible. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi représentatif d'une époque, d'une pensée, puis c'est intéressant en soi. Donc, tu sais, je vois pas une contradiction à fait de lire l'œuvre de Lovecraft et d'y voir du racisme ou même... Pour moi, c'est une position intéressante à explorer sur l'imaginaire du racisme, justement. Mais donc, la série, bon, comme de toute façon on l'a dit, Lovecraft est assez peu présent dans la série de toute façon. Et au-delà des nombreuses critiques que je peux avoir, d'ailleurs, sont peut-être beaucoup ancré justement sur une espèce de prolifération, mais pas de référence culturelle comme Denis peut venir les évoquer. C'est-à-dire que pour moi, cette forme qu'on pourrait dire postmoderne, pour faire simple, me gêne pas du tout. Au contraire, je pense que c'est ce qui m'a peut-être plus amusée. Ce qui m'a gêné, c'est l'absence de choix par rapport aux enjeux culturels, aux enjeux politique, c'est-à-dire qu'il essaye de viser tous les enjeux possibles. On a l'impression d'être en train de lire une page Wikipédia sur l'intersectorialité. À un moment donné, ça m'a énervée à un point, parce que en essayant de trop bien faire, je trouve qu'ils finissent par faire assez mal. C'est-à-dire qu'en essayant d'aborder tous les sujets possibles sans jamais les approfondir, ben, on passe rapidement, puis on n'en sait pas vraiment plus. Je pense que celui qui m'a énervé le plus, c'est la question des Metteal, mais bon, il y en a plein d'autres. On a presque l'impression qu'il y a une instrumentalisation de l'histoire qui deviennent juste des anecdotes pour faire avancer le récit. Puis ça, j'avoue que c'est des aspects qui m'ont un peu plus énervée. Mais donc, on pourrait y revenir de toute façon. Donc, au-delà de ces critiques-là, je vais m'arrêter un peu sur la représentation du territoire, le country vraiment au sens littéral de Lovecraft Country. Le fantastique américain est souvent, il s'ancre souvent en fait dans le territoire pour plusieurs raisons historiques, donc contrairement peut-être à un fantastique plus européen. Entre autres, pour des raisons historiques comme justement les croyances animistes des Autochtones qui sont déjà là sur le territoire, qui existent déjà ces croyances-là. mais aussi la transplantation des croyances et des mythes des communautés européennes qui ont immigré en Amérique, et bien sûr celle des Africains qui ont été amenés de force. Donc, on a un paquet de croyances comme ça qui finissent par s'ancrer dans le territoire qui est en train d'être occupé. Donc, j'ai récemment travaillé sur ces représentations-là dans la série X-Files en particulier, mais c'est le cas aussi dans American Gods, dans Supernatural, donc toutes des séries qui sont essentiellement nomades, donc dans lesquelles on parcourt de bout en bout le territoire, généralement sur ces routes. Et donc, à l'origine de toutes ces occurrences récentes-là dans les séries télé, dans les romans, il y a bien sûr l'œuvre de Lovecraft elle-même, qui est beaucoup plus sédentaire, par contre, hein, et ancrée spécifiquement dans une Nouvelle-Angleterre qui est fantasmée, mais qui aborde directement toute cette mythologie-là, qui est même étudiée dans des universités dans Lovecraft. Donc, il y a cette idée-là du melting pot de croyances, ce melting pot mythologique qui n'a pas été construit comme un tout à travers l'histoire, mais comme un amalgame de plein de mythes déracinés et réenracinés dans un nouveau territoire. Donc, dans toutes ces œuvres-là, le territoire américain imaginaire est peuplé de monstres issus de cultures et croyances multiples, souvent liés à la nature d'ailleurs, vus comme l'espace du diable par les premiers colons blancs et comme puissance surnaturelle pour les Autochtones, mais aussi à la cohabitation difficile du territoire qui a été violemment colonisé puis exploité grâce à l'esclavage. Donc, on a des couches de monstruosité qui s'ajoute à cette mythologie-là. D'ailleurs, en travaillant sur X-Files, je suis tombée sur des exemples hyper intéressants d'ethnologues qui ont étudié la façon dont les mythes ont été comme ça réenracinés en Amérique. Par exemple, des gens d'Europe de l'Est qui se sont installés à des endroits dans des villages très précis en Amérique et puis qui ont amené avec eux leurs croyances dans les sirènes qui sont désormais dans tel lac plutôt que dans celui qui était en Europe de l'Est. Donc, il y a vraiment un réenracinement du surnaturel d'un territoire à l'autre, donc qui apparaît beaucoup, je pense, dans ce fantastique-là à l'américaine. Donc, la série aborde en partie ces questions, malgré que le fameux pays de Lovecraft soit délocalisé, déraciné au centre de l'Amérique plutôt. On est plutôt à Chicago qu'on va un peu en Nouvelle-Angleterre, c'est vrai, mais donc quelques incursions au Massachusetts, une à Boston. Mais de manière générale, le nom de Lovecraft, pour moi, dans la série, est presque uniquement une métaphore pour parler de racisme monstrueux. C'est donc plutôt le pays du racisme monstrueux qui est mis en scène. En fait, la série vise d'abord et avant tout à nous montrer l'expérience de la communauté afro-descendante du territoire, comment eux perçoivent le territoire, comment ils le vivent, comment ils ont été enracinés de force en étant en même temps exclus. Donc, il y a comme le paradoxe de on les a forcés à venir dans un territoire dont ils sont exclus, dont ils ne peuvent pas parcourir librement, même plusieurs décennies après l'esclavage, notamment à cause des lois Jim Crow qui sont réapparues en réaction justement à la fin de l'esclavage. Je ne vais pas tellement m'arrêter sur l'épisode qui représente les massacres de Tulsa, qui est peut-être l'épisode dont on n'a plus parlé, parce que les personnages sont projetés par la magie, par un portail au Kentucky, transformant le lieu et l'événement en îlot isolé du reste de l'histoire, histoire avec un grand H et avec un petit H, et du territoire. Donc, on ne va pas à Tulsa en voiture, on ne s'y rend pas sur le territoire tel qu'il apparaît à l'époque du récit en 1955. On revit simplement un traumatisme personnel ou historique, selon les personnages, par une expérience immersive dans laquelle on risque rien, du moins physiquement. C'est-à-dire que les personnages qui vont à Tulsa ne peuvent pas mourir, notamment une parce qu'elle est invincible. Donc, on a presque l'impression d'être dans un jeu vidéo pour moi dans l'épisode de Tulsa. Et en ça, j'ai trouvé ça un peu problématique, mais aussi intéressant sur le plan de la représentation de l'espace, justement à cause de la création de cet îlot de l'espace-temps d'une certaine façon. L'autre aspect que je veux simplement évoquer, c'est la représentation de Chicago, qui permet quand même de montrer les enjeux de cohabitation. Donc, on a l'effet de liste un peu aussi de Chicago qui permet de montrer la cohabitation, la non-mixité, la ségrégation, le redlining, le pioneering, donc cette idée-là d'acheter des Noirs qui peuvent acheter les premiers une maison dans un quartier blanc pour commencer à forcer la mixité. Notamment à travers le quartier de Southside, c'est Block Party. Donc, on a tout ça un peu en vrac dans la série. Mais aussi la maison de chambre achetée par Laetitia dans un quartier blanc, donc celle qui fait du pioneering, et qui se révèle avoir été à la fois une murder house, hein, digne d'American Horror Story très, très typique, mais aussi un portail vers un tombeau digne d'Indiana Jones, dont l'autre entrée se trouve à Boston. Donc, les lieux sont donc à la fois hantés, donc des espèces de palimpsestes de l'histoire horrifiante de la communauté noire, mais ils sont aussi d'une certaine façon rhizomatiques. Chaque lieu du territoire américain marqué par l'histoire semble interrelié, peu importe leur position géographique, comme si c'était aussi le cas avec Tulsa. Donc, avec ces deux exemples, Tulsa et la maison, et aussi l'épisode de Afrofuturiste, on peut comprendre que la construction de l'espace-temps dans la série, dans le contexte aussi de la théorie de la relativité, hein, dont l'auteur Einstein vient de mourir en 1955. Donc, le temps et surtout la grande histoire apparaît comme un vrai territoire à parcourir grâce à des portails, des flashbacks, des souvenirs et la fiction. Donc, l'histoire, tu sais, on a l'impression que le territoire est aussi un espace-temps. Donc, l'histoire est autant un territoire que le territoire lui-même. Mais de manière plus littéraire, donc je vais finir par m'arrêter sur le premier épisode un tout petit peu. Il y a beaucoup d'autres questions d'ordre géographique dans la série, mais donc je pense que c'est dans le premier épisode qui sont pour moi le mieux soulevés. D'ailleurs, pour moi, c'était de loin le meilleur épisode, qui nous fait vraiment ressentir l'horreur de simplement voyager pour des personnes noires dans l'Amérique de 1955. Donc, c'est notamment le cas grâce au personnage de George Freeman, qui est l'auteur d'un guide de voyage sécuritaire pour les personnes noires, similaire au célèbre Green Book de Victor Hugo Green. Ce guide-là est la carte qui lui sert de référence. Hein. Il va voyager pour faire son guide avec une carte de l'Amérique qui a été augmentée par sa fille avec des dessins de monstres un peu partout sur le territoire, qui nous permet de comprendre rapidement que la série nous présente une géographie américaine alternative. Non pas imaginaire, non pas fantastique, mais plutôt celle que les Noirs vivent, comme s'il existait deux territoires, un pour les Blancs et un pour les Noirs, superposés, mais impossibles à combiner. Donc, elle montre que la cartographie, la géographie peuvent être des savoirs objectifs et universels, mais au contraire, non, les personnes noires vivent sur un territoire parallèle, différent, peuplé de monstres invisibles aux Blancs, de lieux interdits, de parcours dangereux, un peu comme dans l'œuvre de Lovecraft, quoi. On voit d'ailleurs l'auteur du guide prendre la route et tester un nouveau restaurant, expérience qui se termine par un moment de terreur, une course-poursuite et une fusillade. Mais encore plus glaçant pour moi, et la, probablement la scène la plus réussie de la série au complet, est à la fin du premier épisode, justement, et révélatrice. Donc, il se passe au Massachusetts, dans le comté qu'on nomme Sundown, donc où les Noirs n'ont pas le droit d'être après le coucher du soleil, le Devon County, hein, qui a été... qui n'est pas un vrai comté aux États-Unis, mais plutôt un comté en Angleterre, où le dernier des procès puis exécutions de femmes pour sorcellerie en Angleterre a eu lieu. On trouve donc que le groupe cherche en vain dans ce county-là l'emplacement de la ville d'Ardham, donc le double de Arkham de Lovecraft, et qui sont interpellés par un shérif froidement raciste et violent qui les avertit et qu'ils n'ont que 7 minutes pour atteindre le comté suivant avant le coucher du soleil et qu'il les abattra à vue s'ils n'y parviennent pas sans dépasser la vitesse permise. Donc, ça suit donc une lente, très, très lente course-poursuite qui crée un moment de suspense glaçant et presque intolérable, scène qui aboutit à l'atteinte juste à temps de la frontière avec des réjouissements, mais qui se prolonge alors qu'apparaît le barrage routier du shérif encore plus violent du comté voisin. Donc, le pays de Lovecraft est absolument sans issue dans la série. On ne peut aboutir que dans la forêt, parmi les monstres et les rituels des sectes secrètes. Malheureusement, la représentation de la secte, du lodge, voire même de la géographie de la Nouvelle-Angleterre ne va pas beaucoup plus loin que ça dans la série, en tout cas à mon avis. Mais sur le plan du parcours et de la représentation du territoire, je pense que la grande importance accordée aux routes, aux voitures, aux road trips, permet quand même à la série de s'ancrer dans l'Amérique de l'époque, autant sur le plan symbolique que géographique. Donc, on a l'idée d'avoir une seule voiture aussi, hein, toute la communauté noire se déplace toujours dans la même voiture. Une immense Packard Station 48, rouge vin avec des panneaux de bois, avec une personnalité et un nom, hein, Woody. Pour tous les personnages, tous les voyages de la série, qui est d'ailleurs assez intéressante. Une voiture qui protège la communauté, lui donne accès au territoire et lui permet de fuir. Il faut dire que la série se déroule à la même époque qu'Underworld, hein, publiée 2 ans plus tard. La voiture est d'ailleurs sans doute le seul symbole commun de liberté qui existe entre les deux communautés, noire et blanche. D'une certaine façon, c'est la seule intersection qu'on peut y voir.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. On passe à Sophie.
Oui, je trouve ça très intéressant ce que vous avez dit jusqu'à présent. Moi, ce qui m'a frappé au début quand j'ai commencé à écouter la série, sachant que ça devait être Lovecraftien, c'est devenu un peu comme un jeu de trouver Lovecraft au lieu de trouver Charlie. Puis le visionnement que j'en ai fait, pour pas dire la lecture que j'en ai faite, c'était vraiment l'idée de trouver l'horreur cosmique là-dedans. Puis ce qui m'a vraiment frappé, c'est vraiment l'opposition entre l'histoire qu'on représente, parce qu'on a beaucoup parlé du territoire Lovecraftien, mais je veux aussi parler de l'histoire, de la contemporanéité, parce que c'est comme si ça nous donnait un autre fragment de ce qui pouvait se passer dans la même veine que ce qu'on aurait pu retrouver chez Lovecraft. Mais la grande différence, ça se retrouve au sein de la communauté. dans le sens où les personnages lovecraftiens ou les histoires lovecraftiennes, à la base, on a souvent un narrateur qui va témoigner de l'horreur qu'il a vue. Il y a certains récits comme le Pickman's Model, puis certaines autres, où on a plusieurs personnages qui se parlent et qui communiquent entre eux, mais la collectivité est somme toute absente. Tandis que c'est ce qui vraiment va rapprocher les personnages, parce que à cause de l'histoire qu'ils partagent, à cause de l'horreur vraiment... au jour le jour, là, qui vivent à cause du racisme, ben, ça les rapproche. Puis ma théorie de fan, là, si je peux dire, c'est que ça les protège de l'horreur cosmique. Parce que ce qui m'a vraiment choquée, c'est de voir à quel point, justement, dans le moment dont tu parles, là, aller dans le bois puis tomber nez à nez avec des monstres, Hélène, c'est pourquoi ces personnages-là survivent émotivement, psychologiquement à leur rencontre, tandis que leurs opposants, les personnages blancs, eux, sont anéantis par cette rencontre-là. Ils perdent totalement, ils échappent leur bille, là. Puis, je pense que c'est par rapport à ça. C'est à l'horreur. Si on est confronté à l'horreur bien réelle tous les jours, l'horreur fantastique nous affecte peut-être un peu moins. Dans le sens où, ça m'amène à mon deuxième point, c'est que l'horreur est non seulement humaine dans Lovecraft Country, davantage que fantastique, mais c'est aussi que tout le monde a l'air d'être au courant, puis c'est pas un secret. On a des cultistes, on a du folklore, on a des légendes qui viennent d'ailleurs dans le monde avec le Kumiho qui est juste comme accepté par tout le monde, une tradition chamaniste aussi, coréenne, tout ça. Puis c'est pas quelque chose qui va menacer d'un point de vue psychologique, les personnages. Donc, c'est oui, ça existe, oui, le monstre me fait peur parce qu'il a des grandes dents et il me poursuit la nuit, mais il n'y aura pas cette remise en question, cette horreur cosmique-là, finalement, à cause de l'horreur du au jour le jour, finalement. Pour moi, ça m'amène, c'est ça, à la communauté qui va agir comme une défense, puis au personnage d'Atticus, qui est vraiment un anti-héros lovecraftien. C'est-à-dire qu'en étant un héros sacrificiel, prêt à mourir pour sa communauté, puis pour sa famille et tout ça, bien, est vraiment l'anti-narrateur lovecraftien, dans le sens où il n'est pas détruit, il est prêt à aller de l'avant, puis il coche toutes les cases qui sont normalement pas cochées par un héros lovecraftien qui n'est pas capable de fonctionner normalement, puis qui ne peut que prévenir de l'inévitable. Donc, on a vraiment, c'est comme un envers du miroir, un calque, mais inversé d'une histoire lovecraftienne, là, à plusieurs points de vue pour moi, là.
Absolument, Sophie. Et je pense d'ailleurs que c'est cette question cardinale de l'individualisme, voire le solipsisme des narrateurs lovecraftiens. Justement, la communauté chez Lovecraft, elle est du côté de l'horreur. C'est la communauté des cultistes de Cthulhu, communauté des hybrides de Innsmouth, etc. Donc, au fond, c'est vraiment cet effet de miroir que tu évoques, il est radicalisé, puisque ici, c'est bel et bien la communauté qui, normalement, est du côté de l'horreur, vecteur d'horreur chez Lovecraft. Elle est ici vecteur d'humanité et tout le rapport est complètement inversé. Donc, c'est vrai que, justement, en vous écoutant, finalement, ce qui est intéressant, c'est que comme Denis aussi le signalait, Lovecraft est justement, c'est vraiment un cas très particulier de présence et absence simultanée. C'est-à-dire que ce n'est pas le Lovecraft qu'on s'attend, mais en même temps, on peut faire une lecture du point de vue de quelqu'un qui connaît Lovecraft, c'est quand même une œuvre intéressante par rapport à Lovecraft. Et je dirais que c'est presque la stratégie opposée à Alan Moore, parce que dans Alan Moore, dans Providence, on part vraiment de la mythologie lovecraftienne et on la déconstruit à travers de la sexualité, la syphilis, etc., mais la race aussi et tout ça. Mais on revient toujours systématiquement aux textes canoniques. On est un peu dans une sorte de talmudisme lovecraftien, alors qu'ici, au contraire, c'est justement, on s'éloigne beaucoup, mais en s'éloignant, finalement, si on garde l'indice du titre à l'esprit, on commence à comprendre ces choses-là. Et c'est vrai que par rapport à l'horreur, à la communauté, comme par rapport à l'espace et le traitement de l'espace et de la géographie, le fait même, effectivement, déjà signalé que chez Lovecraft, l'horreur, c'est toujours par rapport à ce qui est archéologique, donc à ce qui précède, et notamment à toute cette obsession pour la Nouvelle-Angleterre comme une sorte de réservoir des horreurs anciennes de toutes ces traditions, et notamment le mythe de le mythe et la réalité de Salem, la prolongation de la démonologie européenne dans le territoire américain. Bah, ici, finalement, on a ça bascule vers le sud. Dans l'imaginaire, au fond de la série, on est dans une Amérique beaucoup plus proche de la ségrégation sudiste et qui se projette sur le nord des États-Unis, ce qui est aussi intéressant finalement par rapport à l'histoire socio-économique et politique des États-Unis. Mais oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de faire ces rapprochements. Jérémy, donc... à toi de poursuivre cette analyse de la série.
Oui, bah disons que pour moi, je suis peut-être pas un exemple à suivre parce que vraiment, j'ai vu la série, j'ai appris qu'il y avait un roman qui existait après avoir vu les deux premiers épisodes, et j'ai vraiment vu la série avec un biais très précis, c'est-à-dire que moi, on m'avait vendu une série d'horreur, je m'attendais à voir une série horrifique. Et vraiment, j'y tenais, pas forcément avoir quelque chose en rapport avec Lovecraft, parce que, comme je l'ai dit, moi, pour moi, Lovecraft, c'est vraiment un imaginaire très étendu, qui va vraiment de récits très pointus en termes d'horreur cosmique, comme par exemple les peluches Cthulhu, qui sont devenues une sorte de Pikachu pour geek. J'ai, par le biais des bandes dessinées, de fanfiction, etc., j'ai vu Lovecraft un peu sous tous les angles, y compris dans des animés japonais où les grands anciens sont combattus par des mechas. Enfin bon, vraiment, j'avais pas forcément un... Je ne m'attendais pas forcément à une série vraiment en phase avec très pointue et sur Lovecraft. Mais je m'attendais au moins à quelque chose d'horrifique. Et là, j'ai été effectivement assez déçu par rapport à cet angle. Moi, je dirais que c'est par rapport à ce qu'a dit Hélène sur cette espèce d'empressement à vouloir cumuler les thématiques contemporaines sociales. Effectivement, pour moi, j'ai l'habitude, en tout cas dans le film d'horreur, à voir une horreur qui va jongler avec les thématiques sociales sous le biais de la fausse métaphore, on va dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va nous faire croire que l'horreur, le fantastique va prendre le relais et va être un peu la métaphore de quelque chose dans notre société. Puis, quand la violence et le fantastique arrivent, en fait, on se rend compte qu'elle vient plutôt problématiser cette thématique. C'est-à-dire, comme j'avais une formule un peu bidon, quand je présentais des films des fois au cinéma, je disais que souvent dans le film d'horreur, il n'y a pas forcément un discours du film, mais il y a des discours dans le film. Et des discours qui vont se prendre, comme les personnages, des coups de hache, qui vont également être soumis à un mal extérieur. Souvent, c'est par exemple dans la thématique, quand on va représenter le mal, en l'occurrence là, le mal, c'est bien sûr l'Amérique raciste blanche. Le but, ça ne va pas forcément d'indiquer d'où le mal provient, comme on pourrait le faire, par exemple, dans un film qui aurait vraiment pour but d'expliquer les tenants et les aboutissants de la société. Souvent, le mal, il vient de l'extérieur. Ça peut être une menace extraterrestre, un virus qui n'a pas d'explication. Et par contre, ce mal, il va mettre en mouvement tout le microcosme qui est décrit par le film, et il va mettre en mouvement aussi parfois nos attentes, nos valeurs, nos valeurs même de combat, etc. Ce qui fait que pour moi, un film d'horreur, c'est d'abord quelque chose qui va problématiser plutôt les thématiques comme les thématiques sociales, qui va éventuellement nous aussi faire tomber des masques. Alors, ça peut être vexant, ça peut être, on peut se trouver ça libérateur. Par exemple, si on prenait en compte le racisme de Lovecraft, par exemple, le racisme de Lovecraft, il était un peu particulier. C'est pas forcément le racisme qu'on rencontre aujourd'hui. C'est quelqu'un qui était, par exemple, qui adhérait à tout un tas de choses très très exotiques comme l'anglo-saxonisme. Il trouvait, par exemple, que les Hollandais étaient une race dépravée. Des Européens, c'est quand même assez spécial, mais c'était pas, c'était aussi le racisme d'une Amérique blanche un peu déclassée. C'est pas je me rappelle plus si c'est dans une correspondance à Howard ou pas. Il disait que il se vantait de se nourrir avec 25 cents par jour parce que ça lui permettait comme ça d'économiser pour les timbres et envoyer des lettres. C'est pas un racisme triomphant. Et souvent, par exemple, quand on parle des monstres dans le film d'horreur, les monstres, ils sont terrifiants, certes, mais on montre souvent que ce sont des minables aussi qui se cachent derrière le masque et qu'en fait, s'ils sont effrayants, ce n'est pas parce qu'ils sont en pleine vigueur, mais parfois aussi parce qu'ils sont en pleine descente. Là, par contre, on me montre un racisme, par exemple, qui va toujours être ascendant, fort, puissant, qui domine tout, sans vraiment trouver ces espèces de défauts, quoi. Au niveau de la violence, c'est pareil, il n'y a pas quelque chose de vraiment qui peut être dépassé par rapport à ce qu'on nous montre. Et or, pour moi, dans le langage de l'horreur, le véritable langage de l'horreur, ce n'est pas le sens, c'est la surenchère. C'est vraiment de pouvoir toujours proposer quelque chose qui surclasse, qui est capable de surclasser en tout cas une violence, même qui dans la vie réelle nous paraît insurmontable. Ou alors, il y a une autre solution et qui est plus rare dans le film d'horreur, mais qu'on peut retrouver dans des films comme Martine de Georges Romero, Transfiguration aussi, c'est un film sur le vampirisme là, qui date de 2016, où vraiment on va nous montrer que le réalisme est tellement horrible que le fantastique ne peut pas advenir. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas du film Transfiguration, ça raconte l'histoire d'un enfant noir qui veut devenir vampire. Ça ressemble beaucoup au Martine de Georges Romero, mais il vit dans un quartier noir dont il est un peu le souffre-douleur. Et la chose la plus horrible qu'il va avoir, c'est un blanc se faire passer à tabac par un gang de dealers dans une cave. Et suite à ce passage horrible, il va se dire que finalement, non, devenir vampire dans ce contexte-là, quand ils vont voir avec mes dents pointues et puis ma cape, ils vont se foutre de moi et ça ne va pas être possible. C'est-à-dire que le sujet de l'impossibilité du fantastique ou de l'horreur devient le sujet aussi du récit et du film. Et là, je n'ai pas trouvé que c'était le cas dans la série Lovecraft Country. J'ai plus eu l'impression que ça enfilait des perles. J'ai plus eu l'impression de voir une sorte d'urban fantasy, on appelle ça. Voilà, ces récits où on va retrouver des vampires, démons, fantômes qui se côtoient dans un univers urbain avec la création aussi d'un Scooby Gang. C'était Hélène qui parlait de la voiture. Et moi, j'ai vraiment eu cette impression de Scooby Gang, surtout à la fin. Il y a une autre chose aussi, c'est que par contre, j'avais lu je ne pourrais pas la retrouver, mais c'était une déclaration de Matt Ruff qui parlait de Lovecraft Country, mais de la série, c'est-à-dire pas de son roman, sachant qu'il l'a fait dans le cadre d'une communication via HBO. Donc pour moi, je trouve la validité de ces mots. C'est pas forcément pour moi très sincère, mais en tout cas, il mettait beaucoup l'accent sur la représentation des Noirs à l'image dans une série, ce qui pour moi est problème, et surtout dans le cinéma d'horreur. Alors là, je vois pas ce qu'il veut dire, parce que pour moi, le cinéma d'horreur, c'est pas n'importe quel cinéma. C'est déjà un cinéma où souvent les objets sont plus des stars que les humains. Quand c'est les humains qui sont des stars, souvent c'est parce que c'est des monstres. Ça met l'accent beaucoup plus sur la notion de marginalité qu'une minorité. Par exemple, il y a une horreur noire qui est vraiment, que moi j'adore, qui est celle de Jordan Peele, parce que pas forcément ce que je trouve c'est du grand cinéma, mais je trouve que c'est de l'excellent récit populaire. Et chez Jordan Peele, il va tout problématiser, c'est-à-dire que s'il va mettre un héros noir, le héros noir ne va s'en sortir que parce qu'il a un sidekick noir, parce que la vraie figure qui a une vraie sagesse sur ce qu'il vit, c'est le sidekick noir qui en a vu passer des héros comme c'est pas possible. Il y a aussi chez Jordan Peele, il y a aussi une sorte de lucidité, de discernement aussi sur ce qu'est la violence et ce qu'est les éléments de la culture afro-américaine et même surtout sur ce qu'est un élément culturel. Moi, il y a quelque chose qui me gêne quasiment dans toutes les séries actuellement, c'est l'utilisation de la bande-son. Et j'ai trouvé l'utilisation de la musique dans la série, mais complètement idiote. C'était une sorte de mise à plat, nous faire croire que Nina Simone, que Rihanna, c'est la nouvelle Nina Simone. C'est-à-dire que finalement, la musique noire, c'est une sorte de continuité. Par exemple, quand vous regardez Us de Jordan Peele, quand on est dans les années 80-90, on a un white trash qui bosse dans une fête foraine qui a un t-shirt Black Flag. Et puis, quand on passe dans les années 2010-2020, on a des adolescentes sur une plage qui sont là avec leurs parents et qui ont un t-shirt Black Flag, qui nous fait dire qu'effectivement, ce qui a changé dans le passage du temps, c'est que les gens qui écoutent cette musique, c'est plus la même chose. Ce n'est pas la même chose d'écouter un groupe de punk comme Black Flag dans les années 80, où là, c'est vraiment les auditeurs qui sont des marginaux qui écoutent cette musique, et puis dans les années 2010, où c'est la mère qui a acheté le t-shirt à sa fille qui a à peine 16 ans, etc. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, un peu comme l'a dit Hélène, il y a une sorte d'empressement à vouloir enfiler les sortes de bons points, en tout cas sur ces questions-là, sans avoir vraiment réfléchi au sujet. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'effectivement, j'ai vu une sorte de fausse horreur, comme je peux en voir dans des films de divertissement comme Hellboy ou les films de Tim Burton. Sauf que là, j'ai eu le sentiment que les gens qui ont fait la série pensaient vraiment faire de l'horreur. Et c'est ça que j'ai trouvé gênant quand j'ai vu la série.
Il y a une domestication de l'horreur, c'est clair. C'est aussi l'intégration des codes de l'horreur dans le récit absolument mainstream. Et ça, c'est vraiment un phénomène qu'on voit. D'ailleurs, on l'a beaucoup vu avec les PG, les ratings et tout ça. Mmh. Maintenant, il y a même des films d'horreur qui sont pour 12-13 ans. Bon, déjà, on se dit, bon, c'est clairement, on n'est pas dans Cannibal Holocaust du tout.
Pour rebondir tout de suite sur ce que vient de dire Jérémy, je comprends la déception si on attendait, enfin, s'il attendait quelque chose qui soit strictement horrifiant ou qui relève, j'allais dire, une sorte de niveau lovecraftien de l'horreur, même si on sait qu'il y a pu y avoir par le passé des adaptations de Lovecraft qui étaient franchement rigolotes, qu'elle l'ait voulu ou qu'elle l'ait raté et qu'elle le devienne par défaut. Moi, j'ai pas du tout vu à aucun moment, c'est là où on va se rejoindre, effectivement, je trouve que c'est une horreur très très mainstream et que on est dans l'horreur graphique au sens le plus light du terme. C'est vrai que les éviscérations, les décollations, les membres arrachés sont faits d'une manière qui fait que il y a une sorte de démotivation de l'horreur graphique et moi je l'ai pas du tout pris comme quelque chose dans lequel la violence pouvait être enfin la violence des monstres ou la violence des rituels cultistes pouvait être de l'ordre d'un authentique horrifiant, là où bien entendu effectivement la violence raciale ou la violence tournée contre les homosexuels, contre les là je fais allusion à la série hein, pouvait effectivement être beaucoup plus glaçante, les visages des blancs, la façon dont la haine s'exprime dans la quotidienneté, faisant figure d'horreur. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le Sogoth, s'il s'en est bien un, qui a été appelé, qui est à disposition des personnages noirs, il est très très sympa, hein, il arrive quand vraiment il n'y a pas d'autre solution, et c'est un gentil Sogoth, quoi. Donc, ouf, encore heureux qu'il est là pour venir manger les méchants. Donc, il y a vraiment, quand tu parles de domestication, c'est vraiment ça. Et je trouve que le mot de Jérémy est vraiment très, très, très réussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté Scooby Mobile, hein, ça c'est vrai. Je le prends, il y a une dimension comique. C'est-à-dire que je ne peux pas voir Lovecraft Country comme je pourrais voir American Horror Story ou même comme je pourrais voir les récentes adaptations séries du Haunting of Bly House ou du Haunting of Hill House, qui d'un certain côté cherchent, alors je ne dis pas qu'ils y réussissent, mais cherchent à rester dans le cadre de figurations effrayantes. Là, j'ai quand même l'impression qu'on est que... Alors, c'était très longtemps pour savoir si c'est une réussite de la série ou si c'est un de ses défauts majeurs, mais on est quand même du côté du Grand Guignol, et Grand Guignol, dans mon discours, étant pas du tout péjoratif, hein, c'est-à-dire que c'est d'une conception graphique, visuelle, excessive et fondamentalement pas forcément effrayante au sens où d'autres rhétoriques de l'image voudraient le chercher. Et je crois qu'on est plutôt dans ce collage dont je parlais tout à l'heure et dans l'intersectionnalité ou la comédie disons sociale ou le drame social que véritablement dans l'horreur. Et je trouve que cette critique-là, effectivement, fonctionne tout à fait. Et puis la seconde chose que je voulais dire en réponse, dans le complément de ce que disait Hélène, c'est à propos du massacre de Tulsa. C'est là vraiment où les comparaisons, hein, même si... voilà, il ne s'agit pas de dire c'est mieux chez Ruff, c'est moins bien dans la série ou n'importe quoi, mais c'est de voir là où les différences font sens. Dans le massacre dont Hélène parlait tout à l'heure, elle a rappelé que les personnages sont en fait, par l'opération
d'une magie partent dans le temps de Tulsa. Ils restent spectateurs derrière la vitre de l'hôtel, derrière la glace de l'hôtel, de ce qui est en train de se passer dans la rue. L'une d'entre elles, d'entre eux, pardon, est invincible, donc elle peut ramener le livre en traversant Tulsa en flammes. Dans le roman de Matt Ruff, c'est un récit d'un spectre qui a vécu Tulsa et qui parle au personnage principal, et il lui raconte, non pas pour récupérer le bouquin, mais il lui raconte pour lui expliquer l'amour de son père, hein, c'est-à-dire qu'à l'occasion du massacre, le personnage principal n'écoute pas ce que lui dit son père, il y va malgré tout, son père panique, le cherche, un père violent, un père brutal, un père non aimant, comme on les représente dans le film, et l'enfant comprend en fait la panique absolue de son père à le chercher. Donc récit spectral d'un personnage déjà mort, qui fouille la culpabilité dans le passé d'un père qui vaut à la fois pour sa propre histoire de famille et pour le rapport des enfants à la génération des pères noirs dans ce contexte. Donc on voit bien que là, les mises en scène choisies, la focale politique et la mise en scène visuelle ou narrative est très très différente. Et là, je crois qu'effectivement, ces affaires de comparaison entre les choix sont intéressantes parce qu'on ne parle plus exactement des mêmes choses. Et je crois que ça va être quelque chose qui va peut-être être le dénominateur commun d'un certain nombre de nos interventions. Mais c'est vrai que alors si on veut le dire de façon négative, c'est effectivement une manière d'enfiler les perles de toutes les positions politiquement correctes. Hein. Quand j'ai vu la fin de la série, je me suis dit, mais vraiment, c'est vraiment la série politiquement correcte par excellence, ou la série woke par excellence, comme vous voulez, quelle que soit la terminologie que vous vouliez prendre. Et voilà, on peut aussi le dire en matière de syncrétisme des consciences politiques qui se réunissent, fédérées par le même sens de la discussion des dominations et des dominés. Mais effectivement, ce qui est très frappant malgré tout, c'est que là où le fantastique peut être l'objet d'une interrogation sur les causes, sur les effets structuraux qui ont conduit, les effets systémiques qui ont conduit à expliquer un phénomène social, je pense par exemple à la façon dont dans les films d'épouvante de la fin des années 60, début des années 70, la question du Vietnam et de la violence causée par le Vietnam est une espèce de sous-texte obsessionnel qui peut donner à penser et à comprendre certaines des réactions de vampires ou de zombies qui apparaissent comme des vétérans, hein, qu'ils le soient objectivement ou qu'ils en soient les incarnations. Il y a ici une absence quasi complète d'analyse systémique, si ce n'est bien entendu des représentations stéréotypées qui viennent de la tradition du cinéma américain. Il y a effectivement des moments où on se demande, mais est-ce qu'on n'est pas entre Lovecraft et Mississippi's Burning, à ceci près que dans Mississippi's Burning, les analyses politiques, économiques et culturelles sont infiniment plus précises et profondes. Mais syncrétisme ou grand bazar, hein, ça, je crois que c'est vraiment une des questions de fond sur l'interprétation des motivations politiques, sociales de la série.
Oui, ben je voulais rebondir sur justement cet aspect-là de l'iconographie d'horreur puis la tradition du film d'horreur, parce que j'ai l'impression que c'est comme une anti-série d'horreur, dans le sens où on n'a essentiellement pas de sauts, de jump scare, on n'a pas tous ces lieux communs-là sont carrément absents, mais la véritable horreur qu'on voit, les moments qui nous donnent les frissons, ce sont les moments justement de la poursuite à 40 km/h, tous ces moments-là, le massacre qui est bien, bien réel, qui est historique et tout ça, donc c'est vraiment... Puis les monstres, en contrepartie, qui sont présents, sont effrayants la première fois où on les voit là, dans la forêt, mais deviennent après ça ni plus ni moins que des chiens de garde bien dressés, ce qui contrevient totalement à l'idée lovecraftienne du Shoggoth ou des monstres en général. Puis c'est comme s'il y avait un revirement, puis qu'on avait voulu faire une série d'horreur, mais que on avait voulu faire en sorte qu'elle soit effrayante d'une autre façon. Puis à ce moment-là, c'est peut-être pour ça que ça tombe un peu à plat, parce qu'on ne retrouve pas justement les stratégies habituelles qu'on aime retrouver, puis qui font en sorte qu'on aime ça. On n'a pas l'effet fantastique finalement, c'est ce qu'on perd là.
Tout à fait, oui. Je voulais rebondir effectivement par rapport à ce qu'a dit Denis. Il y a effectivement une représentation qui va être très pulp, très, très grand guignol dans la série. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'a gêné parce qu'en fait, l'intérêt d'avoir recours à ce type d'esthétique, c'est ce que moi j'aime dans le cinéma de genre, c'est qu'on va aborder les choses aussi sur l'angle de leur artificialité. C'est-à-dire qu'on va aborder, par exemple, moi j'avais fait une émission sur les rednecks pour laquelle j'avais fait beaucoup de recherches historiques. Je me suis rendu compte dans la filmographie de films de rednecks que j'ai autant d'arguments pour dire que ces films de rednecks traduisent un aspect réel en fait, des États-Unis sur le fait qu'il y ait deux Amériques, que d'éléments pour dire que cet aspect deux Amériques, c'est à un moment donné, c'est aussi une facilité, c'est aussi un abus de langage. Moi, quand je vois un film de redneck espagnol, il y a aussi deux Amériques en Espagne, et ça fonctionne très bien. Les rednecks qui sont dans les films d'horreur, ils se voient à l'écran, ils vont au cinéma, ils voient des films de redneck, et quand le shérif vient les interroger pour savoir où sont passés les campeurs, ils jouent, ce sont des rednecks, ils jouent des rednecks pour montrer qu'ils sont complètement idiots, et ils remportent la partie comme ça. Donc le film de genre, et notamment le film d'horreur, joue beaucoup sur l'artificialité des choses, y compris sur les convictions. C'est pour ça aussi que ça rentre en conflit avec peut-être cet esprit woke actuel, qui lui va voir le film comme la manière de faire passer un message. Et donc c'est là où il y a où ça va coincer, c'est que par contre le cinéma d'horreur, lui, il va ramener beaucoup de viscosité dans la réflexion, parce qu'à force de problématiser tel élément, on va avancer justement beaucoup moins loin, quoi. J'avais écouté une émission de vulgarisation scientifique sur l'histoire des transports, il y avait un historien des transports qui disait quand on a trouvé le moyen d'aller plus loin, c'est qu'on a trouvé le moyen d'aller plus vite. Et dans le récit horrifique, on va pas du tout vite, quoi. On est toujours ralenti par un élément qui vient problématiser un autre. Et je pense que vraiment, pour moi, là, il y a vraiment une rencontre qui peut se faire difficilement. Quand je vois par exemple une cinéaste comme Julia Asensio, quand elle a fait un film d'horreur indépendant qu'elle va qualifier un peu de féministe, c'est vraiment à des années-lumière. Pourtant, c'est un film qui est récent, mais c'est un peu à des années-lumière justement de ce que je peux voir dans les séries HBO, etc. Et même, par exemple, quand je vois un film de Rape Revenge qu'on m'a vendu comme étant le premier Rape Revenge réalisé par une femme, c'était le film qui s'appelait Revenge. Eh ben on va retrouver, par exemple, non pas justement une idée d'une femme qui va s'émanciper, mais justement une femme qui va se complexifier. C'est-à-dire que la violence qu'elle va exercer sur ses agresseurs, c'est d'abord une violence qu'elle va exercer contre elle-même, contre son propre corps. Son corps va évoluer, elle va avoir un aigle sur le ventre, qui est à la fois un logo, comme si elle en faisait un produit, mais qui en même temps rappelle aussi un élément de liberté. Elle va avoir une oreille arrachée, ce qui fait qu'elle va avoir une boucle d'oreille très, très en plastique, comme une poupée Barbie, avec en quelque sorte borne de la boucle d'oreille, ce qui fait que ça va être une Barbie bancale, c'est-à-dire qu'on va vraiment complexifier son corps puisqu'on va vraiment l'émanciper. Et parce qu'en fait, souvent, les destins des personnages en style de récit, il est aussi accidentel. C'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément pouvoir s'émanciper par la violence, etc. Donc, les personnages se font presque des fois rattraper par leurs accessoires, des fois dans ce type de récit. Et ils deviennent, en fait, c'est un peu comme si au monstre, on opposait le côté freak, en fait, le côté accidentel. Et c'est justement le fait qu'il y ait vraiment ce langage un peu léger ou ce rapport un peu léger, par exemple, au monstre, etc. Justement, je pense que c'est aussi, ça, pour moi, ça n'a pas pu être un échappatoire, en fait. Ça m'a aussi empêché de rentrer complètement dans la série.
Par rapport au monstre, là, j'ai l'impression, puis c'est probablement... en lien avec le rapport à l'histoire qui est dans la série en général, c'est que c'est comme si on avait... Il y a comme un rapport à la postérité et au passé aussi qui est vraiment imbriqué dans la série, mais j'ai l'impression que c'est aussi dans sa conception, dans le sens où pour moi, pour que la série vieillisse bien, puis soit représentative d'une époque et tout ça. C'est comme si on avait essayé d'enlever le côté qui. Je veux pas dire kitsch, mais je vais dire kitsch des monstres Lovecraftiens qui ont tendance à mal vieillir. Puis on le voit dans des films plus anciens, le Reanimator, From Beyond, qui sont considérés comme des classiques puis qui respectent les descriptions autant que possible Lovecraftiennes, mais qui, ou ce qu'on a vu plus récemment avec Color Out of Space aussi, qui vont vraiment aller full on dans la représentation. On a de la représentation physique dans Lovecraft Country, mais c'est comme si c'était pas assumé ou que c'était comme un mal nécessaire parce qu'on s'appelle Lovecraft Country, il faut au moins qu'on ait un monstre, là, ça serait nécessaire. Mais on n'a pas la panoplie, on n'a pas la mythologie complète ou quelque chose du genre qui s'ouvrirait sur plus. Ce qui s'ouvre sur plus, c'est les possibilités narratives d'avoir justement des nouveaux récits qui s'imbriquent dans cette tradition bien imbriquée-là, pourtant, de la tradition Lovecraftienne. Fait que oui, je suis d'accord avec toi, Jérémy, par rapport aux monstres.
Je suis d'accord, Sophie, puis en plus, je trouve que l'effet de ça, en fait, sur le récit, c'est que pour moi, l'horreur, puis le, disons, on peut parler mettons, peut-être de néo-réalisme, c'est-à-dire représentation de communautés minoritaires, pour moi, ces deux aspects-là se nuisent constamment dans la série. Ils sont tout le temps, la représentation des monstres du fantastique, de l'horreur, est tout le temps en train de désamorcer les enjeux sociaux, puis les enjeux sociaux désamorcent la puissance des monstres. Tu sais, on le voit dans certaines scènes en particulier, là, mais il y en a que c'est vraiment évident. Par exemple, quand ils refont ce qui pourrait être une bonne idée à la base. C'est souvent ça, en fait, dans la série. C'est que ça part de bonnes idées, puis t'es comme, oh non, ils n'en ont pas fait ça. L'exemple qui me vient le plus en tête, c'est celui d'Emmett Till. Ben, ils ont décidé de ne pas représenter le meurtre d'Emmett Till, qui est clairement une décision. C'est pas pour rien qu'ils ne l'ont pas représenté. C'est l'épisode raciste le plus monstrueux de l'histoire des États-Unis. C'est le corps d'Emmett Till est littéralement devenu le monstre qui a servi à la lutte ensuite. Et donc, le fait qu'ils décident de ne pas le représenter peut juste être un choix conscient. Mais ils ont plutôt décidé de le représenter sous la forme de recréation par une femme blanche à la fin, ce qui peut être intéressant comme idée, parce que c'est l'idée de est-ce qu'on a plus de compassion pour une femme blanche? Est-ce qu'on ressent quelque chose de différent quand on voit un enfant noir ou une femme blanche vivre exactement la même scène? Mais le problème, c'est que la femme blanche, elle paie quelqu'un pour le faire, puis à la fin, elle est invulnérable. Et donc, ça n'a aucun impact émotif. Le fantastique de son invulnérabilité détruit complètement l'idée de base qu'on a voulu montrer. Puis en plus, tout le reste de l'épisode, c'est des gens qui essayent d'aller au funérailles d'Emmett Till qui réussissent jamais à y aller parce qu'il y a tout le temps des monstres qui les interrompent, mais sans aucune conséquence. Donc, il y a quelque chose comme ça qui fonctionne souvent dans la série qui me... J'étais comme, ah, bonne idée! Ah non, malheureusement, on a comme détruit un peu ce qu'on a voulu faire. Puis l'autre problème qui est lié, en fait, c'est l'exposition. La série n'arrête pas avec l'exposition. Plutôt que d'incarner ou de montrer, donc plutôt qu'être dans le show don't tell des enjeux sociaux, ben, on est tout le temps en train de nous le dire littéralement comme un discours. Donc, ça devient insupportable des fois. Là, on a des dialogues de 10 minutes où on nous explique littéralement l'intersectionnalité. Je veux dire, c'est pas l'objectif d'une œuvre. L'objectif, c'est de nous montrer comment c'est vécu, ça.
Oui, ça, je rejoins volontiers Hélène là-dessus. C'est-à-dire que, et ça, c'est très absent du roman, par contre, il y a des moments qui sont, pour le dire honnêtement, un peu didactiques, effectivement. Il y a des personnages qui prennent en charge... Alors quoi, est-ce qu'ils prennent en charge un discours qui est lui-même stéréotypé et dont, disons, une intelligence critique supposerait qu'on peut prendre un petit peu de distance, ou est-ce qu'au contraire, il est en train d'indiquer au spectateur quelle est la bonne lecture? Je crois que ça fera un bel objet dans une dizaine d'années, quand les querelles woke, cancel culture, etc. sont un peu passées, qu'on pourra regarder ce genre de film autrement. Ça fera un bel exemple pour se demander l'adéquation d'un tel produit au contexte d'époque et au discours normé sur les représentations, sur les luttes, sur les intersectionnalités, quel est le degré de cohérence, enfin de consistance politique qu'il y a là-dedans. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et je peux prendre un exemple très précis dans les choix d'adaptation.
qui correspond complètement à ce que disait Hélène à propos de la démotivation par la forme des enjeux. Dans le roman, un des passages, un des chapitres, une section qui m'intéresse, que j'ai trouvé la plus réussie, c'est celui de Miss Hyde, enfin Hyde Park, hein, de Jekyll à Hyde Park, c'est-à-dire la potion qui permet au personnage noir de Ruby de se transformer en femme blanche. Et dans la série, la question est très très vite réglée. Elle pige très très vite qui elle est. Bon, on a les effets de transformation gore, alors que dans le roman, c'est juste quelques traces de sang qui la surprennent. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le roman permet quelque chose qui n'est pas impossible au cinéma, mais qui vraiment n'a pas été la tasse de thé des metteurs en scène de cet épisode. C'est le problème de la focalisation interne. C'est-à-dire que dans le roman, on va suivre le corps d'une blanche agissant à l'intérieur du point de vue d'une noire qui se découvre blanche dans ses actions. C'est-à-dire que la focalisation narrative spécifique du texte permet d'explorer la surprise, l'adéquation, l'inadéquation, qui là se trouve finalement réduite à quelques effets de comédie lorsque la blanche ne peut pas s'empêcher de faire revenir dans son discours des expressions ou une parlure qui serait typiquement celle d'une femme noire de son quartier. Et donc, tout ce qui pouvait être déstabilisant, non pas pour le lecteur ou le spectateur, mais pour le personnage lui-même, est littéralement effacé. Hein, et là, effectivement, on voit comment un véritable enjeu qui est parfaitement traité par le roman, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'être dans la peau d'un autre et de me savoir dans la peau d'un autre et pouvoir jouer à travers les problèmes de focalisation narrative et de créer un effet tout à fait spectaculaire à la lecture, disparaissent et sont rapportés à une scène de transformation qu'on peut juger efficace ou pas efficace, hein, elle est pas mal en termes d'effets spéciaux numériques, en termes de tout ce qu'on veut, mais qui, par ailleurs, a pour effet de neutraliser complètement la question du devenir autre. Hein. Donc, quand tu disais il y a un instant que souvent le fantastique ou l'horreur venait neutraliser la question politique ou l'inverse, voilà un assez bon exemple. Effectivement, de ce qui n'a pas résisté au passage de l'écrit à l'écran, ou alors, effectivement, qui a été perdu au profit d'autres questions qui sont intéressantes. Et puis, le problème, effectivement, et j'en termine, de la question de l'intersectionnalité telle qu'elle est traitée, c'est inévitablement une forme de mise à plat. De mise à plat des questions qui reviennent à comparer justement tout ce qui est de l'ordre des questions d'interracialité, de transsexualité, d'homosexualité et des questions de race et de les mettre finalement dans certains passages de la série, pas tout le temps, mais dans certains passages de la série comme une espèce de sur un même plan d'égalité. Hein, et là, c'est effectivement une position politique qu'on peut parfaitement avoir, mais si on l'a, alors elle a pour effet instantanément de défaire toute perspective historique, toute perspective sociale, et j'ai été, moi personnellement, assez gêné par l'épisode en Corée, avec l'écrasement complet des questions politiques, historiques, la transformation de la question coréenne, enfin de l'oppression vis-à-vis de la Corée, mise sur un plan d'égalité avec la question raciale aux États-Unis, l'instrumentalisation du soldat noir comme bourreau. Enfin bon, il y a effectivement une espèce de maelstrom, si on veut être gentil, ou de bouillie idéologique qui parfois est un peu gênante. Ouais.
Mmh. Oui, on sent qu'il y a une volonté, donc d'un côté de domestication et puis d'embrigadement de l'horreur. Et ça pose toujours un peu problème quand on veut, autant dans la science-fiction, fantasy, horreur, quand on veut faire avancer un discours social de façon très, très univoque finalement, alors que ce sont des genres de l'ambiguïté et de la problématisation, comme le rappelait Jérémy. Sophie, tu vas devoir nous quitter. Tu voulais dire un mot avant?
Oui, mais en fait, c'est ça, j'abonderais dans ce que tu viens de dire, Antonio, parce que c'est ça, c'est vraiment, moi, l'impression que j'en retire de cette série-là, c'est que c'était une série qui était bien faite, qui amenait des choses importantes, mais qui, dont le marketing est juste complètement passé à côté de l'objectif. Puis c'est vraiment, pour moi, c'est une très bonne série d'un point de vue narratif et tout ça. C'est juste que j'imagine que Racist Country n'avait pas le même côté accrocheur, là, mais je pense que le côté lovecraftien n'est tout simplement pas assez au rendez-vous, dans le sens où il faut le chercher. Mais c'est quand même une série que j'ai aimé puis qui pose de très bonnes questions, mais je pense que la question du genre est vraiment dans le sens du genre narratif là, est vraiment difficile à relier, parce que ça aurait été possible de respecter les codes de l'horreur puis d'avoir les mêmes réflexions. C'est juste que, comme vous l'avez tous et toutes soulevé, le fait de vouloir tout cocher les cases du politically correct, là, ça a alourdi l'histoire, puis ça l'a mis de côté aussi le côté fantastique, là, pour moi en tout cas. Là.
Oui, et puis la question presque du contresens, non, qu'on a déjà évoqué aussi, si on parle par exemple de l'horreur cosmique qui part de cette idée de sorte d'indifférence totale par rapport au sort humain, bah, ça entre en conflit directement avec l'humanisme affiché par la série, etc. Donc c'est aussi ça le paradoxe, de vouloir faire quelque chose. Et comme je disais, c'est au fond beaucoup plus proche de l'horreur anti-lovecraftienne des années 40-50 que du paradigme lovecraftien. Donc il y a aussi dans cette question, est-ce que c'est une bouillie, est-ce que c'est un syncrétisme, mais il y a un peu cette question-là, c'est qu'à un moment donné, à tout vouloir brasser, et toutes les mythologies de l'horreur, etc., on peut tomber dans quelque chose où justement on est dans l'indifférence du spectateur. C'est-à-dire que là, à un moment, on s'en fout, que ce soit des ghouls, que ce soit des vampires, que ce soit des fantômes. La mythologie est complètement mise à plat, que ce soit des shoggoths, ça n'a plus aucune importance finalement. Oui, Jérémy ?
Oui, excuse-moi, c'est que ce que tu disais m'a rappelé, en fait, c'est une des séquences, moi, que j'ai trouvé la plus gênante dans le film. C'est un épisode où la veuve de l'oncle, en fait, se retrouve projetée dans l'espace. Ah, oui. Là, effectivement, moi, j'ai trouvé que c'était un détournement. Alors moi, d'habitude, j'aime beaucoup les détournements, mais vraiment un détournement qui aurait pu être réjouissant de Lovecraft, mais là, j'ai vraiment trouvé insupportable, effectivement, parce que le détournement, en fait, il va être fait dans le sens où ce qui est censé représenter l'horreur un peu de cette littérature qu'on trouvait à l'époque de Lovecraft, c'est-à-dire le fait de changer d'échelle. C'est-à-dire que l'idée que ce qu'on va retrouver aussi chez Ashton Smith, etc., il y a quelques décennies avant qu'ils écrivent leur nouvelle, on pensait que la Terre, elle avait 6000 ans. Et c'est vraiment l'idée que la Terre, alors à l'époque, c'était plusieurs centaines de millions d'années, et quelque chose d'assez récent pour eux, un peu récent pour nous, comme la question, par exemple, de l'intelligence artificielle ou d'Internet. Mais on va retrouver dans la littérature un peu de l'époque, par exemple, chez Ashton Smith, il y avait l'idée de la dying earth, c'est-à-dire qu'on revenait dans des cycles de temporalité. Chez Lovecraft, il y avait cette idée de changement d'échelle, c'est-à-dire vraiment ces cités cyclopéennes. Moi, j'étais adolescent quand j'ai commencé à le lire, et parmi les mots que j'ai dû apprendre dans le dictionnaire, il y avait « éon ». Aussi, fallait, c'est-à-dire ces grandes ces périodes complètement dures à assimiler pour l'esprit humain. Et là, c'était ce qui normalement sécrétait l'angoisse, on va dire, dans le récit lovecraftien. Et là, ce qui aurait pu être amusant, c'est que c'est ce qui crée justement de l'émancipation. Et justement pour le personnage qui va se projeter parmi l'espace, le temps, et finalement pour s'émanciper, pour devenir quelqu'un. Et j'ai trouvé que l'espèce de montage qui était fait de séquences, ça m'a fait penser à une publicité, au langage de la publicité. J'ai cru à un moment donné qu'il allait y avoir un Samsung Galaxy qui allait surgir. C'est une vision un peu du progrès, de l'émancipation qui moi me rappelle pas du tout, en fait, quelque chose qui est lié à l'imaginaire ou à quelque chose d'artistique. Ça me rappelle vraiment ce que je peux voir à la télévision en termes de publicité, ce que je peux voir sur YouTube, ce que je peux voir sur Twitter, Facebook, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ces récits qu'on voit parfois, c'est juste une manière de prolonger ce que nous proposent déjà les mass médias. Et moi, j'ai été vraiment là, pour moi, ça a été vraiment le coup du spectacle où vraiment j'étais très gêné par cette séquence qui m'a un peu rappelé Wonder Woman, vraiment dans moins le film Wonder Woman que la campagne marketing de Wonder Woman, quoi.
Oui, alors ça c'est intéressant parce que je crois que dans les réactions mitigées, moi j'ai lu sur des forums ou sur des réactions de gens qui ont acheté la série, des réticences de fans, c'est-à-dire qu'on peut considérer que le Lovecraftien, le gardien du temple, le défenseur de l'univers de Lovecraft, puisse ici ou là dire non, c'est pas bien, pour telle et telle raison, il n'y a pas assez de Lovecraft, il y a tromperie sur la marchandise, etc. Mais je crois qu'on peut dire aussi autre chose. Ce qui doit gêner les Lovecraftiens purs et durs, c'est que finalement, une série comme celle-ci dit qu'il n'y a plus de culte de Lovecraft, que l'œuvre de Lovecraft est dans la culture pop désormais totalement sécularisée. Elle a échappé à la niche culte et tout est Lovecraftien. C'est-à-dire que je veux dire par là que Lovecraft est désormais devenu le nom d'une modalité particulière de l'épouvante et que si on regarde l'histoire rapide de la réception de Lovecraft en France ou aux États-Unis, ben ça s'est joué entre les années 60 et aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben le magazine Lire fait un volume cette semaine sur le monstre avec 4 pages consacrées à Lovecraft. Lovecraft est devenu une référence majeure du jeu vidéo. Il y a un livre qui sort ces jours-ci sur le jeu vidéo chez Lovecraft. Il y a des livres qui sont faits sur la musique, les publications, les colloques universitaires. Bref, Lovecraft est parfaitement institutionnalisé dans la recherche académique, comme il l'est à peu près dans tous les secteurs de la culture pop. Donc, Jérémy parlait tout à l'heure de Pokémon Cthulhu, mais ce ne sont pas les t-shirts Lovecraft qui manquent. Bref, la culture pop a gagné, c'est-à-dire que où Lovecraft a investi de son rayonnement tentaculaire et innommable tous les recoins de la culture pop pour la rendre Lovecraftienne, ou plus simplement Lovecraftienne a été domestiquée par le marché pop, et à ce titre-là, comme bien d'autres choses, à ce titre-là, il est ni plus ni moins puissant que d'autres figures qui sont antérieures. Donc ce que Lovecraft Country scelle aujourd'hui, c'est l'hyper-visibilité du nom de Lovecraft, c'est-à-dire l'effet de marque qu'est Lovecraft, et qui, s'il suffit à vendre l'imaginaire d'un imaginaire pour porter une série, montre bien, d'un certain côté, la neutralisation du pouvoir sulfureux et spécifique qui était encore attaché au nom de Lovecraft il y a peu. C'est le nom aussi d'une extension. Le mot de domestication que tu as employé dans un autre registre tout à l'heure, Antonio, pourrait être repris ici. C'est-à-dire que Lovecraft Country, c'est aussi la fin de quelque chose. C'est-à-dire la fin d'une certaine possession fanique du nom de Lovecraft. On n'est plus entre aficionados. C'est terrible, mais on n'est plus entre aficionados de Lovecraft. On est désormais dans une Lovecraftiana à ciel ouvert, hein, qui fait que désormais tout le monde possède Lovecraft, y compris HBO. Et à ce titre-là, même une adaptation comme La couleur tombée du ciel, qui a ses défauts mais également ses intérêts, pouvait encore être un film de niche. Lovecraft Country n'est pas une série de niche, c'est vraiment, ça a été présenté comme un moteur absolument de HBO par ses bandes-annonces, et on voit bien qu'il y a une nouvelle extension. Moi, ça m'évoque toujours un passage de Salem de Stephen King, où le père et le prêtre sont absolument persuadés qu'il n'y a pas de monstre, que les vampires n'existent pas. Le gamin, lui, sait que les vampires existent, et comme le vampire arrive, ben, il le sait, il le reconnaît. Pourquoi il le reconnaît? Parce que le vampire qui apparaît est absolument conforme à l'image qu'il a du vampire à la télévision et à l'image qu'il a sur son paquet de céréales. C'est-à-dire que la figure
pop, chocolat.
Hein, la figure pop du vampire est déjà tellement installée dans la culture que le gosse sait qu'il sera conforme à sa représentation. Ben, je crois qu'on est arrivé à ce point-là avec Lovecraft, hein, qui n'est plus du tout la figure sulfureuse qu'on retrouve dans les mémoires de Philippe Druyer, que l'on retrouve dans les défenses de Jacques Sadoul, que l'on retrouve dans les confréries de premiers universitaires lovecraftiens de la fin des années 70. C'est le nom de l'horreur mainstream. hein, qui est celui aujourd'hui qui aboutit à une série comme celle-ci. C'est pour ça que je ne l'ai pas du tout vu comme une série d'horreur, en fait. Je crois que c'est ça peut-être la différence. Je l'ai vu vraiment comme un spectacle mainstream, dont effectivement, il y a des trucs un peu gore, un peu violent, un peu sexy, qui l'empêchent de le classer en dessous de 16 ans. Mais globalement, non. J'ai plutôt vu un truc très, très, très grand public.
D'ailleurs, la référence aux Goonies, qui était aussi assez fatigante, il rappelait cet autre moment de la culture pop avec Joe Dante, Spielberg, etc., où tout à coup le passé plus sulfureux de l'horreur devenait beaucoup plus domestiqué, justement. Je pense qu'on touche un peu à la fin de l'émission. Merci énormément. Je pense qu'on a réussi à aller au-delà des critiques habituelles qui ont été faites de cette série, soit dans le sens de la célébration, soit dans le sens de la déception. Et je pense que c'était un peu le but aussi de montrer qu'on peut réfléchir aussi par rapport à des choses qui ne sont pas nécessairement convaincantes et que la critique n'est pas là non plus pour être tout le temps en train de cautionner des œuvres, mais pour les interroger, qu'est-ce que ça peut nous donner comme matière à réflexion. Merci donc beaucoup Hélène, Sophie, Denis, Jérémy. Merci à tous ceux qui nous avaient écoutés.
Merci.
Et à une prochaine.